Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Shavua Tov, Raveli Lemel.
Shavua Tov.
Chaque semaine, avec vous, on survole la paracha de la semaine. Et donc là, on en est à Vaishlach. On l'a dit avec Yaakov qui va rencontrer son frère Esav et qui lui envoie des anges. Mais c'est aussi la paracha du combat avec l'ange, justement, et qui est sujet à des réflexions qui ont des millénaires. Quel est l'enseignement que vous y voyez et que vous voulez partager avec nous ce soir?
En effet, c'est un épisode donc, qu'on connaît, dans lequel Yaakov donc, va se retrouver, comme d'ailleurs Rachid le fait remarquer, il revient en arrière, il est en fuite, il a peur de Esav, Esav son frère donc arrive avec une armée, 400 cavaliers, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, quelles sont ses intentions. D'ailleurs, on voit que Yaakov se prépare à toutes les éventualités possibles. Il va séparer son camp en deux parties. Il se dit, bon, mais si on a une qui est attaquée, l'autre pourra s'enfuir. Il va préparer toutes sortes de cadeaux pour éventuellement amadouer son frère. Il prie en même temps. Et puis, de manière très surprenante, la Torah nous dit que Vaivata Yaakov Levado, Yaakov se retrouve seul, vaillé avec Ishimo Adalot Hasharar, et un individu se bat, d'accord, avec lui jusqu'à ce que l'aube arrive. Alors, il y a des choses quand même qui sont très curieuses là-dedans. Tout d'abord, on retrouve Yaakov donc dans sa solitude, il est seul, il est dans la nuit, et puis il va y avec Ishimo. Le terme que la Torah utilise pour parler de ce combat est très surprenant, parce qu'il y a d'autres mots en hébreu pour parler d'un combat, pour parler d'une confrontation. Va y avec est quand même un terme relativement rare. Et le Zohar fait remarquer, il dit oui, avec, va y avec Ishimo, avec Milashon Avak. Avak, c'est la poussière. Car en effet, dans leur combat, il y a de la poussière qui s'élève tout autour d'eux et qui, quelque part, les entoure, les enveloppe. Évidemment, il y a plusieurs lectures, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous relater ce qui semblerait être un détail technique. En vérité, il y a quelque chose ici qui est fondamental. Ce combat qui dure toute la nuit, vous le savez parfaitement, c'est ce qui symbolise le combat que le peuple d'Israël va mener face à Esav et ses descendants, et ce pendant toute la nuit de l'exil. Pendant toute la nuit de l'exil, en effet, il va y avoir cette confrontation, que l'on va traduire par un mot très simple, qui est l'antisémitisme, les désirs de détruire, les pogroms, les expulsions, la Shoah, enfin voilà, tous ces événements. Et quelque part, veillez avec, c'est-à-dire il y a de la poussière qui entoure. Vous savez, quand il y a de la poussière qui est là, qui entoure, alors on ne distingue pas vraiment. La Torah est entre autres, évidemment, en train de nous dire que, au fond, la problématique de l'antisémitisme, elle ne sera pas claire. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, on se dira, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Le peuple juif n'est pas là ni pour chercher à convertir les autres. On fait notre Torah et nos mitzvot tranquillement dans notre coin. On fait partie de la cité, on s'inscrit dans la cité, on apporte à la cité. Adina de Malchut Adina, les lois du pays, ce sont les lois du pays, on se doit de les respecter, sauf si bien sûr elles s'opposent à celles de la Torah, mais généralement ce n'est pas le cas. Et pourtant, il y a cet antisémitisme récurrent qui est là. Ce combat qui est quand même difficile à comprendre, en tout cas pour celui qui est à l'extérieur. Et il dure toute la nuit de l'exil, et lorsque arrive l'aube, ad alot hasharar, c'est-à-dire lorsque on se retrouve à un moment dans lequel, eh bien, ça y est, l'aube arrive, l'exil se termine, et l'exil qui se termine, c'est évidemment c'est notre génération, parce que le retour du peuple juif sur sa terre, c'est évidemment la fin de l'exil. Est-ce que c'est le début de la délivrance? C'est encore un autre sujet, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de l'exil, sans aucune ambiguïté. Et à ce moment-là, alors Esav voit qu'il n'a pas réussi. Esav voit qu'il n'a pas pu faire disparaître Yaakov. Yaakov est toujours là, il est présent. Et il va tenter, j'ai envie de dire là, il sort ses dernières cartouches pour essayer quand même de réussir à le déstabiliser, à le blesser et à peut-être remporter la victoire. Et on voit qu'il lui donne ce fameux coup à la hanche et Yakov repart en boitillant, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui a déstabilisé le clan d'Israël. On sait que Yakov, par la suite, va retrouver en effet cette hanche, mais en effet, il y a eu une déstabilisation, il s'est passé quelque chose. Alors, évidemment, pour la première partie, oui, nous savons nous très bien que, au fond, le problème de Essav par rapport au peuple d'Israël, la racine de l'antisémitisme, c'est le fait que le clan d'Israël renvoie en permanence à l'humanité, en miroir, ce que l'humanité aurait pu devenir. Le clan d'Israël, celui qui dit à l'humanité qu'on ne vit pas à travers la matière, mais qu'elle doit être le support à quelque chose. Il introduit la dimension de sainteté dans l'existence. Mais Esav, justement, tente. Et alors, c'est quoi? Eh bien, disent les maîtres du Zohar, ils nous disent que ce coup qui est porté à la hanche, qui touche ce que l'on appelle le guide anaché, ce fameux nerf sciatique, eh bien, nous renvoie à trois concepts, à trois notions. Le premier, c'est Tamre de Oraita. Il s'attaque à ceux qui soutiennent la Torah. Après, ça nous renvoie à tout ce qui a trait à l'univers de tout ce qui est dans le domaine de l'intimité. Et le troisième, c'est les fruits de ce qui se joue dans l'intimité, c'est-à-dire la naissance d'un enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici, Esav? Qu'est-ce qu'il cherche? Première chose, eh bien, Tamre d'Oraita. Et ça fait en telle sorte que on va dévaloriser l'importance de l'étude. Et comment est-ce qu'on va le faire? En essayant d'amener les personnes à ne pas vouloir soutenir l'étude de la Torah. Et vous savez, c'est quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, quelqu'un sera très fier d'annoncer qu'il a soutenu des hôpitaux, l'armée, ce que vous voulez, ce qui est très bien, il faut soutenir, évidemment. Tout a besoin d'être soutenu, mais beaucoup plus rares sont les personnes qui vont soutenir l'étude de la Torah et qui vont s'en enorgueillir, au sens noble du terme, qui seront fiers. Pourquoi? Parce que Esav a réussi à faire pénétrer dans le peuple d'Israël sa vision que, au fond, ça sert à quoi cette étude? Ça ne produit rien. Ce qui est complètement fou, parce que nous voyons que pour Esav, on peut faire toutes sortes d'études qui n'amènent strictement rien. On peut faire de la philosophie, on peut faire toutes sortes de choses. Et ça, c'est très valorisant, ça c'est très bien. Vous faites un doctorat sur l'impact des vases étrusques, enfin je ne sais pas, sur n'importe quoi au niveau de l'Antiquité. Vous êtes quelqu'un. Mais l'étude de la Torah, au fond, ben non. Et c'est intéressant parce que derrière l'étude de la Torah, c'est le socle du clan d'Israël qui se joue. Vous savez, j'aime bien poser aux gens la question et leur dire, mais d'après vous, il y a combien en France, on est au moins 400 à 500 000 juifs, il y a combien d'après vous de personnes mariées qui étudient la Torah toute la journée et qui reçoivent une bourse et qui n'est pas très importante pour cela? S'il y a 300 ou 400, c'est énorme. On est 400 000, on est 500 000. D'où vont venir les maîtres? D'où vont venir ceux qui vont transmettre? Et ça, c'est la force de Essav, de dévaloriser, de dire mais c'est quoi ces étudiants de Torah? Mais c'est quoi cette yeshiva? Ça sert à quoi? Ça, c'est la première tentative, c'est-à-dire de faire en telle sorte que la transmission de la Torah, eh bien, soit quelque chose qui va être mis de côté. On va adorer les intellectuels juifs, ça on aime bien, parce que tout simplement, ils sont le fruit de l'université. Alors là, oui, ça c'est reconnu. Mais quand c'est le fruit de la yeshiva, qui est le lieu par excellence de l'étude, alors ça n'a plus aucune valeur. C'est qu'on réfléchit à quelque chose de bouleversant là-dedans. Deuxième chose qu'il va tenter, eh bien tout ce qui est trait à l'univers de l'intimité. L'univers de l'intimité, c'est l'univers du charnel, c'est l'univers du physique, c'est l'univers de la dimension du matériel qui devient matérialité, qui devient matérialisme. C'est-à-dire, Esav va nous amener à vouloir vivre à travers le monde de la matière. Esav est celui qui va nous dire, non seulement tu possèdes de la matière, mais tu existes à travers ce que tu possèdes. Alors que pour le clan d'Israël, posséder, ça a du sens. Dès lors qu'on sait quoi faire avec ce que l'on possède, on ne vit pas à travers ce que l'on a. Parce que si on vit à travers ce que l'on a, alors on n'est jamais, on n'existe pas. Et je crois que c'est Goldman qui chante « J'ai pris les choses et les choses m'ont prise ». C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, c'est à travers la possession, à travers l'expression d'une richesse ou de marque ou de choses comme ça qu'on a l'impression d'exister. Ça, c'est ce qu'il va faire. Et la troisième chose, c'est les enfants. Le fruit de tout ce qui se situe dans le monde de l'intime. Et c'est tout simplement eh bien, les écrans. Les écrans, la télévision, ça a commencé déjà il y a pas mal d'années. Et ça va là. Et apprend à nos enfants. C'est quoi la vie? C'est quoi l'amour? C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? C'est quoi la réussite? C'est quoi les valeurs? Et nous, on est là. Et on met les enfants devant. Et on dit à Essav, ben, je t'en prie, vas-y, donne-leur les fondamentaux, transmets-leur les fondamentaux. Et ça, c'est bouleversant parce que aujourd'hui, refuser que Essav transmette à nos enfants les fondamentaux de l'existence avant que nous-mêmes, nous leur ayons proposé ces fondamentaux, est quelque chose qui vous fait passer pour un ringard. J'aime bien utiliser cette expression qui est un peu provocatrice. Oui, nous ghettoisons nos enfants. Traduction, quand les enfants sont petits, nous les enfermons, entre guillemets, nous leur donnons en premier lieu nos valeurs. Puisque toute éducation au début est une forme de conditionnement, j'ai la priorité du conditionnement en tant que parent juif. Ils seront confrontés par la suite au monde, évidemment. Ils y sont dans cet univers, ils pénétreront l'univers, mais au moins, les fondamentaux, ils les auront acquis à travers ce que nous leur avons transmis, à travers ce que la Torah nous transmet. Et ça, c'est la dernière tentative de Essav pour justement déstabiliser le clan Israël. Et comme on l'a vu, donc, première chose, dévaloriser l'importance de l'étude de la Torah, faire en telle sorte que de la matérialité, nous allions dans le matérialisme et nous vivions à travers ce que nous possédons, que ça devienne des choses essentielles, et puis que nous n'ayons plus conscience que nous donnons à Essav le soin de donner à nos enfants les fondamentaux de l'existence qui sont, de manière générale, totalement opposé à la vision que la Torah propose de la vie. Voilà un petit peu ce qu'il va tenter. C'est la fin du combat, c'est l'aube. Israël existe, on revient vers Eretz Israël. Et Essav se dit, bon, ben, le choix, c'est plus possible. Alors, on va faire quoi? Et c'est ça que l'on voit. Évidemment, c'est déstabilisant. Yaakov, néanmoins, guérit. Et à travers ce texte, nous comprenons encore mieux les enjeux et les batailles que nous devons livrer aujourd'hui. Et évidemment, c'est une responsabilité pour chacune et chacun d'entre nous de savoir où se situe véritablement, où doivent se situer véritablement les investissements et les batailles que nous devons livrer dans notre génération pour justement faire perdurer et faire aboutir l'histoire du clan d'Israël.
Cette histoire d'écran est très très impressionnante. Moi, par exemple, je sais que j'ai perdu cette bataille, donc vous voyez, je vous reconnaîtrai.
Je suis pas sûr, parce que si vous dites que vous l'avez perdu, ça veut dire que vous êtes conscient que il y a un enjeu, donc ça veut dire que la bataille n'est pas perdue. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne voit pas où est le problème. Dans la mesure où vous voyez le problème, même si à un moment vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi, mais tant qu'on a conscience que le problème est là, alors les choses peuvent changer. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui décide qu'il n'y a plus de problème.
Ben merci pour ces très belles paroles, mais ce que je voulais, c'est donner juste une petite recette, puisque je buvais vos paroles, en fait, et dire juste une petite recette comme ça, moi qui n'ai pas été le meilleur dans ce combat. Quand on mange, voilà, tout le monde sait, y compris les adultes d'ailleurs, qu'il n'y a pas de téléphone. Quand on est en ce moment, on est tous ensemble, on pose le téléphone. Évidemment, pendant la tefila, ça, on n'a pas besoin de moi, j'espère. Mais voilà, etc. Et c'est en mettant des petits îlots comme ça que j'ai réussi, des fois, pas toujours.
Très on réussit tous, un petit peu.
Un peu.
Et puis... Et puis un peu devient un peu plus.
Amen. Rav Eli Lemel, je vous remercie pour ces très belles paroles et je vous souhaite une bonne semaine. Shavua Tov.
Shavua Tov, voici.
Mordechai Bitton nous a rejoint dans les studios. J'ai tellement l'habitude de dire toutes les semaines Rav Mordechai Bitton à Jérusalem que c'est un véritable plaisir de vous voir ici. Bonjour.
Plaisir partagé.
Bonjour.
Shavua Tov.
Shavua Tov. On sait ce qu'il veut dire. Alors voilà, on enregistre cette émission le jeudi, évidemment, pour vous laisser tranquille pour Shabbat. Mais effectivement, on se dit Shavua Tov puisque Kabbalat Shabbat est devenu depuis quelques semaines Mil Ave Malka. On se retrouve le samedi soir sur Radio Shalom pour une émission de Torah. Et on continue à survoler notre paracha de la semaine. Et donc cette paracha pose aussi une question, en tout cas c'est sur ça que vous voulez intervenir. Mais qu'est-ce que Yaakov est allé chercher ça? Donc on a bien vu, il se dispute, ça peut aller très très loin. Yaakov a peur. Il a peur autant de tuer que d'être tué. Mais finalement, vous avez envie de nous dire ce soir, bon d'accord, mais qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller chercher ça? Ah, pourquoi?
Alors justement, c'est entre guillemets le reproche qui est adressé par le Midrash. Hein. Réveiller un chien qui dort, c'est finalement se mêler d'une querelle à laquelle on n'a pas à être mêlé. Donc en fait, Yaakov, il va aller à la rencontre de Esav. Il rentre en Eretz Israël, mais il va chercher Esav. Et ce n'est pas dans la ligne de conduite de Yaakov. Yaakov, c'est l'archétype du juif dans le monde, en galoute, en exil, et qui ne va pas chercher l'adversaire. Et c'est quelqu'un qui est, EST. Il est dans la Havaya, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire qu'il est dans l'être. Il est ce qu'il doit être. Quand il était chez Lavan, il le dit d'ailleurs à Esav, il dit « Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan, je suis resté ce que j'étais. Garti, j'ai habité avec lui, l'être de Tariak 613. » J'ai gardé 613 mitzvot, je suis resté ce que j'étais. Pourtant, Lavan a essayé de me corrompre de mille et une manières. Et pourtant, j'ai tenu. Donc, Yaakov, c'est quelqu'un qui explique qu'il est, EST, ce qu'il doit être. Alors, qu'est-ce qu'il va chercher? Alors, il y a plusieurs explications sur le sujet, mais on va se focaliser sur un point. Un point qui est la prière de Yaakov. Yaakov dit « Katonti mikol hachassim ». Il s'adresse à Hachem, il dit « Peut-être que j'ai démérité ». De la part de Yaakov, c'est très surprenant. Mais chaque mot qui nous est raconté au sujet donc des avot, au sujet des pères fondateurs du peuple juif, c'est un mot qui a valeur d'enseignement pour les générations futures. Yaakov, en fait, c'est l'archétype de celui qui va s'efforcer d'étudier la Torah et d'être le plus parfait dans son service divin, dans son service d'Hachem. Et là, il dit « Katonti mikol hachassidim, peut-être que j'ai démérité ». Cette mida, ce trait de caractère, c'est le trait de caractère caractéristique du juif dans sa relation avec Hachem. J'ai toujours à conquérir. C'est pas de la culpabilité. C'est j'ai toujours quelque chose à conquérir. Et comme j'ai quelque chose à conquérir, je suis peut-être passé à côté de quelque chose qui fait que la promesse que toi, tu m'as fait, Hachem, que tu me garderais, que tu me protégerais, peut-être qu'en fait, cette promesse, aujourd'hui, je n'en suis plus digne, et donc peut-être que tu ne vas pas me protéger. Katonti mikol hachassadim. Peut-être que j'ai démérité, que je ne peux donc plus bénéficier de la protection que tu m'avais garantie. À l'inverse, Esav, lui, il se comporte complètement différemment. Par exemple, dans la suite de la rencontre, il va dire à Yaakov, il lui a dit « Yesh li rav, moi j'ai la majorité de ce que je dois avoir. » Yaakov va lui répondre « Moi, yesh li kol, moi j'ai tout ce que je dois avoir. » Comme si Esav pouvait décider si ce qu'il a, c'est la majorité ou la minorité de ce qu'il devait avoir. Comme s'il pouvait dire à Dieu, en quelque sorte, c'est moi qui vais juger de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Donc en fait, on voit qu'il y a ici deux postures fondamentales dans le rapport au monde. Le rapport de Yaakov, c'est un rapport d'invité dans le monde, Garti, avec Lavan, j'ai Garti, la gour, c'est aussi quelque chose qui signifie être étranger. Mais dans le monde, c'est ce que je suis. Et les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les pères du peuple juif, ont été des étrangers là où ils habitaient. Bien qu'ils étaient Nasi Elohim, comme c'était le cas pour Avraham, il était roi. Les nations du monde l'ont consacré roi. Il a été un des rois du monde. Yitzhak était reconnu comme étant finalement un prince, également par les Pélishtim, par les Philistins, bien qu'il ait eu des conflits avec eux. Yaakov, il va être reconnu comme étant le représentant du projet divin ici, par l'ange même de Esav. Malgré tout, Yaakov dit « Katonti, j'ai encore à conquérir ». Par contre, Esav, comme Nabucodonosor, comme Hiram, comme Pharaon, va s'adresser au monde en disant « Qui est Hachem ?» Par exemple, Pharaon va dire « Mi Hachem, qui est ce Hachem, qui est ce Dieu pour que j'écoute sa voix ?» Nabucodonosor va dire « Valoté à Bamoté Arrête, c'est-à-dire que moi je vais être à l'égal de Dieu, je vais me situer dans un univers d'égalité avec Hachem. Donc il y a ici un combat. Il y a ici un combat, c'est un combat de valeur. Où en fait Yaakov vient et dit j'ai un combat de valeur avec Esav, j'ai un combat. Moi j'incarne finalement ce projet du peuple juif qui est de dire il reste des choses à conquérir, il reste des choses à parfaire, il reste des choses à améliorer finalement, face à une civilisation qui est la civilisation de l'autosatisfaction. Alors ça n'explique pas pourquoi, et maintenant il va aller le chercher. Ça n'explique pas pourquoi il va aller le chercher, parce que c'est notre question de départ.
Alors, excusez-moi, c'est presque le contraire de tout ce que vous venez de dire.
Oui, parce qu'il est justement,
il pense qu'il peut, il ne va pas aller chercher les autres. Oui. Alors pourquoi il veut ?
Ah pourquoi ? Parce qu'il a en face de lui un homme qui est un homme qui incarne une civilisation qui veut détruire. Et en fait, Yaakov s'est préparé à la rencontre avec Esav, à la fois en s'apprêtant à négocier, en même temps en s'apprêtant à faire la guerre, d'accord ? Et en même temps par la prière. Donc en fait, Yaakov, il a parfaitement compris qu'il a en face de lui une civilisation qui veut détruire. Et face à une civilisation qui veut détruire, face à une civilisation qui veut attaquer, qui veut agresser, à un moment donné, effectivement, il faut aller au contact. Il faut finalement rentrer dans cette guerre. Et c'est ce que va faire Yaakov. Yaakov, il dit finalement, Esav, Atsilininam yadachim yad Esav. Tu vas me sauver de Esav, qui lui ou ses descendants peuvent se présenter de manière fraternelle. Mais quand il se présente de manière fraternelle, comme disait le Briskerov, c'est comme le Cosaque qui tient la main de l'enfant. Il le protège, mais en même temps, il ne le laisse plus partir. Donc sur le plan spirituel, il veut le détruire. Finalement, il peut être le Cosaque, tout simplement, qui veut détruire. Il peut être le nazi qui veut détruire. Finalement, il peut être celui qui, comme Napoléon, par exemple, va proposer une assimilation politiquement correcte, mais qui est en fait une tentative de destruction sur le plan spirituel. Et puis finalement, au fond, quand on regarde un petit peu les mémoires de Napoléon, d'ailleurs, et quand on voit l'attitude de Napoléon dans le Grand Sanhédrin, beaucoup de haine et beaucoup de mépris à l'égard du juif. Donc Yaakov dit... Oui, c'est vrai. Moi, mon travail, c'est d'être. Mais face à quelqu'un qui veut me détruire, il y a un moment où, effectivement, je dois partir en guerre. Alors, comment on part en guerre ? On part en guerre comme Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, bah, il va étudier la Torah. Yaakov, il va prier. Yaakov, il va négocier. Et il va se préparer, comme vous l'avez dit, à la guerre. Il veut ni tuer, ni être tué. Il a peur de ça. C'est la dernière éventualité. Mais si conflit il doit y avoir, alors, à un moment donné, il faut assumer ce conflit. On ne peut pas toujours être dans cette position qui deviendrait une fausse modestie lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui a comme projet de me détruire, et qui le dit ouvertement, et qui l'assume. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, ça deviendrait finalement une fuite que de se cantonner dans cette exigence de l'être, alors qu'à un moment donné, on me propose un combat, et que ce combat, il faut le mener. Et le combat avec Esav, c'est un combat qui est physique, c'est un combat qui est spirituel, c'est un combat qui est moral. Et donc, comment il va le mener, Yaakov ? Il va d'abord le mener comme un combat moral. Et donc, il dit « Katonti, Mikol HaRasim ». Alors, le juif, il doit d'abord comprendre qu'il a un combat moral. Alors, c'est très intéressant parce que c'est très applicable même dans nos jours. Par exemple, les grands du peuple juif disent toujours que quand il y a des xérotes, il y a des décrets sur le peuple juif, ces xérotes n'arrivent pas par hasard. Et que la première chose qu'un juif doit faire, c'est précisément de mener une guerre, mais alors laquelle ? D'abord, mener la guerre contre lui-même. S'améliorer, se renforcer, et effectivement relever le défi après de l'éducation, quand il y a une bataille sur l'éducation, voire même, comme ça a été le cas à Hanouka, relever le défi d'une bagarre physique, s'il le faut. Mais ça a toujours été, chez les Chachamim, la dernière éventualité. Le premier regard que nos sages jettent sur ce type de guerre, sur ce type de combat, c'est d'abord que le juif doit comprendre pourquoi cette chose est arrivée. Il doit réfléchir aux raisons qui ont fait, sur le plan spirituel, qu'il est aujourd'hui attaqué. S'il est attaqué, c'est qu'il y a une faiblesse. Donc il y a d'abord une guerre à mener pour s'améliorer, pour travailler, pour reconquérir précisément des territoires. Rentrer plus justement plus dans cette logique de Katonti Mikol HaChassadim. C'est savoir qu'il me manque des choses et que j'ai des choses à faire. Mais ça n'exclura jamais, s'il le faut, le fait d'affronter. Par exemple, le Chafetz Chaim disait que lorsque le communisme est apparu, eh bien, il eut fallu même que les dirigeants juifs s'allient avec toutes sortes de dirigeants religieux pour combattre le communisme sur le plan politique. Et ça a été la même chose face à l'agressivité laïque, face à des tentatives donc de dévoiement du peuple juif. À un moment donné, les Gdolim disent, les grands du peuple juif disent, effectivement, on doit se remettre en cause, effectivement, on doit faire teshuva, effectivement, on doit se poser des questions, mais il y a un moment où s'il faut manifester, s'il faut dire des choses, s'il faut mener un affrontement, oui, effectivement, on le mènera. Et on retrouve tout ça, finalement, dans cette attitude de Yaakov, mais quand même avec des priorités. C'est d'abord Katonti Mikol HaChassadim. D'abord, je vais m'adresser à ce que j'ai à conquérir. C'est ça la dimension fondamentale, finalement. J'ai des choses à conquérir, et même lorsqu'il y a un affrontement, c'est fait pour me rappeler que, oui, j'ai des choses à faire encore.
À m'améliorer.
Absolument.
Il y a un autre mot que vous n'avez pas prononcé, je suis sûr qu'il vous brûle les lèvres, c'est la savoir se remettre en cause. J'ai l'impression, hein, en vous écoutant, c'est de ça qu'il parle.
C'est la base. C'est ce que dit Rambam dans les lois du Ta'anit. Hein. Il dit, quand il y a un mauvais décret qui s'abat sur l'Assemblée d'Israël, il dit, et la première chose d'abord, c'est la teshuva. Et si on s'adresse à cet événement comme étant un mikré, c'est-à-dire finalement une occurrence politique, sociologique, etc., on passe à côté. On est achzari, on est seulement à l'extérieur de l'événement. Il faut être à l'intérieur et comprendre que cette mida, ce trait de caractère de Yaakov, qui est que je dois savoir, comme vous l'avez dit, me remettre en cause, bah oui, c'est ce que je dois finalement mettre en marche
Et on aura eu une belle leçon, une belle dracha juste avant Hanouka. Je sais que les parachiotes, généralement, elles correspondent plus ou moins au calendrier. Merci, Rav Mordechai Bitton. C'est un plaisir de... On vous souhaite évidemment de retourner très vite dans votre bonne ville de Jérusalem, évidemment. Mais c'est un grand plaisir de vous retrouver dans les studios de Radio Shalom. Bonsoir à vous et Shavuatov.
Shavuatov.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadret. Bonsoir Maria Chah.
Bonsoir, Shavuatov.
Shavuatov, on continue avec vous le survol et l'étude de notre paracha de cette semaine. Et alors là, on va essayer de se confronter à un sujet qui est très difficile à comprendre. C'est celui du viol de Dina. Dina qui est l'une des sœurs, des enfants de Yaakov. Donc lui, ils sont parmi tous les tribus, il y a Dina, on le sait. Et elle se fait violer. Et vous y voyez, vous, on va dire, le concentré de toute la paracha. C'est-à-dire vraiment le point focal, si on peut dire, le problème de l'opposition entre Israël et les nations. Alors pourquoi cette histoire de viol peut-elle en elle-même porter toutes ces contradictions et toute votre réflexion ?
Ouais, c'est ça. Oui, alors cette année, j'ai voulu vraiment m'arrêter sur ce chapitre qui est tellement opaque, chapitre 34. On sait bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire et elle ne va pas nous raconter quelque chose au demeurant d'absolument horrible, abominable qui arrive à Dina, la fille de Yaakov et Léa. Elle est kidnappée, elle est séquestrée, elle est violée. Elle est souillée, enfin, c'est vraiment abominable à la lecture de ce passage. Et puis ensuite, le violeur vient, soi-disant, avec des bonnes intentions, et son père vient dire à Yaakov, « Mais non, mon fils est juste amoureux de votre fille et il veut l'épouser. » Enfin, vraiment, tout le passage est absolument abominable. Et en réalité, je crois en effet que ce passage... évidemment, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire, il ne s'agit pas de nous raconter une anecdote horrible qui arriverait dans la famille d'Yaakov, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici, en fait, de la matérialisation dans une histoire concrète de tous les agissements, de tous les fondamentaux qui nous sont dévoilés dans la paracha de Vaïchlar. Alors, le début de Vaïchlar, on se souvient très bien, c'est cette angoisse de Yaakov à retrouver son frère Esav et qui le haït, et la lutte également dans la nuit contre l'ange de Esav, et puis il va en sortir vainqueur avec le nom d'Israël, nous savons tout ça. Puis tout d'un coup, après être sorti victorieux de cette lutte contre Esav, l'histoire de Dina. Alors, en termes conceptuels, pour nous aujourd'hui, cette lutte de Yaakov et d'Esav, c'est la lutte entre deux concepts fondamentaux aussi. C'est la lutte entre le concept de Yaakov qui est décrit dès qu'il est né comme étant celui de l'intérieur, qui est assis dans la tente, et ça, mais celui qui est à l'extérieur, et c'est l'homme des champs. Et donc, en fait, on a ici, en miroir, deux réalités de ce monde, la profondeur, l'intériorité, l'invisible aussi, et le visible, l'extérieur, l'immédiateté, la séduction, la sensation. Et ces deux éléments-là, en miroir, donc la lutte pour être le peuple du livre, être le peuple de l'intériorité, être le peuple qui comprend profondément, qui ne s'arrête pas au visible, à l'immédiat, à la séduction non plus, eh bien, toute cette lutte se voit matérialisée dans l'histoire de Dina, qui est violée. L'histoire commence par Vatetse Dina, Dina sort. Et donc, on a ici immédiatement, d'une certaine façon, l'expression du danger du monde extérieur. Du monde extérieur au sens propre et au sens figuré, bien sûr. Le danger, alors, traverser le monde extérieur pour aller vers l'intériorité, c'est le principe même de Yaakov, mais le problème avec le monde immédiat et visible tel qu'il nous est présenté, sans profondeur, eh bien, c'est d'être aspiré par ce monde-là, d'être happé, d'être coincé à l'intérieur de ça. Et c'est ce qui arrive à Dina. Dina sort de façon absolument naïve, elle va écouter de la musique, il y a un orchestre, en réalité c'était un guet-apens, et elle va être happée, elle va être aspirée par eux. Elle va donc subir la pire chose et le viol en cela est le plus abominable des actes, parce que c'est un acte qui gomme l'intériorité d'un individu. Un individu est à ce moment-là tout simplement réduit à sa partie corporelle, charnelle, extérieure. Et donc c'est vraiment anéantir, annuler l'identité. Et avec une pointe d'humour, je dis que Dina est la première à lancer le hashtag MeToo. C'est-à-dire qu'elle vient et elle dit « ce n'est pas possible qu'une personne soit annulée de cette façon ». Et ses frères viennent et ils vont eux aussi exprimer à travers ce chapitre que le monde extérieur, quand il n'y a pas d'intériorité, c'est un danger absolu. C'est vraiment le... Et alors, ce qu'ils vont faire, on est très mal à l'aise quand on lit la suite de l'histoire aussi. Et c'est vrai que tous les commentateurs essayent de trouver une raison. La suite de l'histoire, c'est une ruse. Bémirma, une ruse en leur disant... alors, eux-mêmes ont rusé, ils ont dit « Notre fils, Shrem, est amoureux de votre fille. » Alors qu'on ne nous vende pas de l'amour quand il s'agit d'un viol. C'est abominable. C'est-à-dire qu'ils nous font croire qu'il y a ici de l'intériorité alors qu'il n'y a que de l'extériorité. Et donc, en parallèle, encore une fois en miroir, les frères de Dina vont ruser, apparemment, et vont dire « Faites donc la circoncision. » Et puis, suite à leur... Enfin, ils acceptent, et puis c'est toute la ville qui doit se circoncire, hein, parce qu'ils demandent un mariage, que vos filles se marient avec nos fils, et que nos filles avec vos fils, etc. Donc, un mariage de toute la ville, et donc ils demandent à toute la ville de se circoncire. Et là, au troisième jour, le jour le plus douloureux, on est sans anesthésie, bien sûr, et donc là, ils vont vraiment décimer la ville, passer tous les hommes au fil de l'épée, dit le texte. Et on est très mal à l'aise. Comment deux fils de Yaakov, alors certes, ils doivent reprendre leur sœur, peut-être venger, on peut imaginer qu'il la venge en tuant le violeur, éventuellement, hein, qui est Hayav Mita, certainement. Mais pourquoi une telle violence dans la ville? Et là, je voudrais citer un commentateur exceptionnel du 19e siècle, l'auteur du Aktav Ve'Akabala. Il s'appelle Rabbi Yaakov Tzvi Miklenburg. Et cet auteur, en lisant juste bien le texte, en nous apprenant à avoir un regard pointilleux sur le texte, nous demande de regarder ce que dit le verset 15, quand les frères de Dina disent « Voilà à quel prix nous pourrions être d'accord, im tiyu kamonu, si vous devenez comme nous, lehimol lachem, et que vous fassiez la brit mila. » Alors, on voit la pesanteur du langage, si vous êtes comme nous, ils ne disent pas « si vous faites la mila, la circoncision », ils disent « si vous êtes comme nous, et que vous faites la mila », sous-entendu. C'est-à-dire qu'ils demandent deux choses. Il leur dit « En fait, il ne suffit pas d'avoir l'acte de la circoncision qui est un acte visible dans le corps, qui exprime, qui est censé exprimer une capacité de domination, une capacité d'intériorité, une hauteur, une profondeur. Non, ils disent, ce qu'il faut, c'est d'abord que vous deveniez comme nous. Donc, vous devez abandonner vos idoles, vous devez abandonner les dieux étrangers, vous devez croire comme nous en ce Dieu unique. En gros, ils font un petit peu le travail que faisait leur grand-père Avraham quand il ramenait tout le monde au monothéisme, en la croyance en Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Il dit, c'est à ça qu'il faut arriver. Et il faut également qu'il y ait le signe sur le corps de cette authenticité. Et voilà que, alors, l'auteur du Ktav Ve'Akabala dit, Vayei Bayom Ashlishi, le troisième jour, Biotam Koavim, lorsqu'ils avaient mal, apparemment. Mais ce mot Biotam Koavim signifie également, dans d'autres contextes, il signifie également alors qu'ils regrettaient. C'est-à-dire qu'on a ici une double douleur. Une douleur physique, certainement, de la circoncision, mais aussi une douleur spirituelle. Qu'avons-nous fait? On vient de décider d'abandonner nos dieux, mais c'est impossible. C'est impossible pour ce peuple complètement païen et qui a de multiples divinités. D'autant que certainement que ce troisième jour, jour de la douleur, ils avaient bien envie de servir le dieu de la guérison. Et ils ne peuvent plus le servir. Et donc, les voilà en phase avec leur mensonge. Leur mensonge de faire croire, ils ont fait croire à une intériorité, à ce qu'il y avait de l'amour alors qu'il n'y a eu que du viol. Les voilà en face de leur propre tromperie. Ils ont apporté des arguments faux, eux-mêmes sont faux. Ils ont pratiqué la circoncision alors qu'à l'intérieur d'eux, il n'y a aucune bonne intention. Et donc, le contrat est donc nul et non avenu. ils avaient promis d'adhérer à la croyance de Jacob et de ses fils. Ils n'y adhèrent pas. Et donc, ils s'opposent à la sortie de Dina. Les frères Shimon et Lévi viennent récupérer Dina. La ville s'oppose et un combat va s'en suivre. Et donc, on a ici, je crois, une vision quand même plus proche de la réalité et moins violente de ce qui s'est passé. Ils ont voulu tenter faire un accord. Le Ramban Nachmanide dit qu'à aucun moment les enfants d'Yaakov ont supposé que cette ville entière de Shrem, très mal, avec une très mauvaise réputation, à aucun moment ils n'allaient abandonner leurs idoles. Et donc ils les ont mis face à cette réalité. Êtes-vous cohérent? Êtes-vous authentique? Est-ce que chez vous ce n'est que le monde de la consommation, de l'extériorité et du visible, de l'immédiat, ou avez-vous un tout petit peu la capacité de Yaakov à pénétrer les mondes intérieurs, les mondes spirituels? Et voyant que ce n'est pas le cas, ils récupèrent donc Dina et ils vont, l'accord étant nul, ils vont, pour la récupérer, devoir tuer les hommes de cette ville. Et donc, il me semble en effet que toute cette paracha de Vaishlar parle d'une seule et même chose, du combat entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre Yaakov et Esav, entre qui que ce soit qui veut un tout petit peu pénétrer l'intérieur des choses et tous ceux qui restent en superficie, en extérieur. Et c'est vrai dans tous les domaines, ce combat. C'est-à-dire, toute chose nous présente d'abord ce qu'on appelle la klipa, l'écorce. Vous savez, même les mitzvot nous présentent en premier l'écorce. Quelqu'un qui s'intéresse à être shomer Shabbat, en premier va voir l'écorce de la Shmirat Shabbat, à savoir... je ne peux plus monter en ascenseur, je ne peux plus prendre mon portable, je ne peux plus voir ma série. Mais ça, c'est l'écorce du Shabbat. Et à nous d'avoir cette capacité à un tout petit peu rentrer en profondeur, à ne pas rester dans la superficie des choses, et évidemment, dans son aspect le plus extrême, le plus caricatural, être en superficie, c'est le principe du viol, c'est ce principe-là qui... ces derniers temps, a été tellement, et heureusement, tellement les médias ont abondé là-dedans, ce n'est plus possible de vivre dans un monde de l'extériorité. Et je crois qu'à l'approche de Hanouka, c'est important de se souvenir que nous avons des lumières que nous allumons à l'intérieur de nos maisons et à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, comme si on disait... restons toujours concentrés sur l'intérieur et l'intérieur doit diffuser vers l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'extérieur qui va diffuser vers l'intérieur, comme on peut le voir notamment dans les lumières de Noël, où c'est l'agora, l'extérieur qui est lumineux, c'est le commun à tous. Non, pas le commun à tous, l'individu et la lumière personnelle et individuelle. Et donc cette paracha, je crois, nous met déjà dans l'ambiance de Hanouka, avec cette nécessité absolue qu'une Brit Mila, une circoncision, ce n'est pas juste une circoncision, un signe extérieur. Il doit être l'expression de ce qu'il y a de lumineux à l'intérieur, de ce qu'il y a de plus spirituel à l'intérieur de nous tous.
L'intérieur de plus intime en plus. Et donc ça rejoint profondément ce que vous dites. Sachant qu'en vous écoutant, je me disais, c'est le problème de l'intégrité. C'est-à-dire que le viol, c'est l'intégrité de la femme. Entre autres, il y a beaucoup de choses. Il y a de la dignité aussi. Puis il y a tout simplement la violence. Et c'est l'intégrité. Et c'est intéressant que vous faites le lien dans ce qu'on vient d'entendre avec l'intégrité dans tous les domaines, vis-à-vis de la conversion, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on croit vraiment, de ce qu'on est, être intègre. Yaakov Ishtamimaya.
C'est tout à fait ça. C'est tout très à fait bon. Ça. À tous les niveaux, il y a ce principe d'intégrité qui est mis en lumière dans cette paracha. Absolument.
Magnifique. Maya Chadrez, je vous souhaite une bonne semaine, pleine de réflexions, et revenez-nous toujours aussi intègres, et Shavuot Tov.
Shavuot Tov, c'est gentil, à bientôt Bernard.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoy bet.